Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 septembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Yannick Jadot, candidat des Verts pour la présidentielle, vainqueur de la primaire écologiste hier. Et voilà qui rebat les cartes à gauche, analyse dès le début du journal après les autres titres.
Le témoignage de la fille de la première victime des attentats du 13 novembre. Le président américain critiqué par l'état-major de l'armée pour son retrait total d'Afghanistan. Un avion moins gourmand en kérosène, l'A220 et le PSG vainqueur hier contre Manchester City grâce entre autres à Lionel Messi.
Nos invités ce matin, 7h50 Léa.
Déclinisme, complotisme, djihadisme, zémourisme, il analyse et déconstruit les croyances de l'époque dans un nouveau livre absolument passionnant, Le Grand Récit. Le professeur d'histoire spécialiste de l'Allemagne, Johan Chapoutot, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, à 8h20 on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, au micro d'Inter. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. Les Verts ont finalement trouvé leur candidat pour la présidentielle et événement dans l'événement. Le favori a gagné, fini la malédiction de la primaire écologiste. Yannick Jadot ne connaîtra pas le sort de Nicolas Hulot en 2011 ou de Cécile Duflot en 2016. Avec 51% des voix face à Sandrine Rousseau, il entend bien jouer son rôle jusqu'au bout.
Moi, je voudrais dire ma fierté du mouvement écologiste et des plus de 120 000 personnes qui ont participé à cette primaire écologiste, des débats de qualité qui ont montré que les écologistes ont des solutions pour les Françaises et les Français. Et donc, c'est ma fierté de porter les couleurs de l'écologie, mais avec un seul objectif. Cette fois, on ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner.
Yannick Jadot, hier soir sur France 2, l'eurodéputé de 54 ans, ex de Greenpeace, plus vert allemand que radical, va donc se retrouver face à Anne Hidalgo à gauche et chacun se poser en meilleur candidat pour la sociale écologie, Antoine Gignot.
Les thématiques se recoupent et les électeurs sont les mêmes. Ils viennent de la classe moyenne supérieure, constate un cadre du Parti Socialiste. Pour espérer passer le premier tour de la présidentielle, il faudra donc inévitablement un regroupement, mais ce ne sera pas simple. Pas question de laisser Yannick Jadot prendre les commandes du grand train de la sociale écologie. Patrick Kanner, patron du groupe socialiste au Sénat, rappelle que le PS a conservé, lors des élections du mois de juin, 5 régions, là où les écologistes n'en ont décroché aucune.
Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une élection départementale, mais surtout régionale, et on a vu que là où les socialistes tiraient les listes, eh bien, il y avait des résultats positifs, y compris en termes de gagne de territoire, alors que ce n'a pas été le cas quand les Verts étaient à la manœuvre.
Méfiance aussi dans l'équipe de campagne d'Arnaud Montebourg. On souligne les différences entre l'Européen Yannick Jadot et les idées de souveraineté nationale mises en avant par l'ancien ministre du redressement productif. Les députés de la France insoumise, eux, profitent de l'annonce du résultat de la primaire pour se démarquer et fustigent une écologie d'accompagnement du marché. La campagne commence et l'ancien cadre du parti, chacun va devoir assumer ses responsabilités.
Et pour l'instant, Anne Hidalgo et Yannick Jadot sont dans un mouchoir de poche dans les sondages d'opinion. Sondage qui confirme une tendance, Éric Zemmour en progression, sans le nommer Emmanuel Macron là pour la première fois publiquement évoqué hier lors d'un discours à la Bibliothèque nationale. Notre identité ne s'est jamais bâtie ni sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation, je cite. On en parle à 8h.
Il est 7h04, Anaïs, au procès des attentats du 13 novembre. Parole aux oubliés.
Les victimes du Stade de France qui se sentent en effet oubliées, abandonnées, balayées par l'horreur des attaques des terrasses et du Bataclan. Au 14e jour d'audience hier, la cour a commencé à les entendre. La fille de la première victime a témoigné, Sophie Parmentier.
C'était un papa cool, comme il en existe peu. Un papa aimant qui nous chouchoutait, un vrai pilier pour toute notre famille. À la barre, Sophie Dias, 39 ans, raconte son père, Manuel Dias, 63 ans, chauffeur de car, tué dans l'explosion d'un kamikaze du Stade de France. Ce soir-là, Manuel Dias venait d'appeler sa femme, son amour de jeunesse, la mère de Sophie. Sophie Dias, elle, était au Portugal pour préparer son mariage. « J'ai dû me marier sans mon papa », dit-elle. Émotion contenue, elle veut surtout qu'à ce procès, on n'oublie pas que son père a été la première victime des attentats du 13 novembre.
Trop souvent, on oublie le site du Stade de France et on oublie qu'il y a une victime. C'était mon papa qui se trouvait sur son lieu de travail. Je n'attends vraiment rien du procès. Pour moi, c'est vraiment le devoir de mémoire et ce qui restera du procès. Parce que je pense que c'est important qu'il ne faut pas oublier cet attentat, mais c'est tout. Ça ne va pas changer la peine que j'ai au fond de moi et la perte. Personne ne pourra me le rendre, malheureusement.
Et Sophie Dias dit sa colère intérieure vis-à-vis du fonds de garantie qui continue à évaluer son préjudice avec des experts froids qui nous laissent, après chaque expertise, dans une détresse psychologique grandissante, dit-elle. Face à la cour, elle dénonce le parcours du combattant des victimes et se rassied.
Les rescapés du Stade de France encore entendus aujourd'hui, puis ce sera au tour des survivants des terrasses et des proches des disparus. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme doit trancher aujourd'hui la requête de familles de djihadistes françaises qui demandent le rapatriement en France de leurs filles et de leurs petits-enfants. Explication à 7h30. La France rend un hommage national aujourd'hui à Maxime Blasco, 34 ans, soldat tué en opération au Mali, maintes fois décoré. En 2019, il avait sauvé la vie à deux de ses camarades après le crash de leur hélicoptère alors qu'il était lui-même grièvement blessé. Le cortège funéraire franchira le pont Alexandre III cet après-midi à Paris avant l'hommage présidé par Emmanuel Macron aux Invalides. En Afghanistan, les militaires américains s'inquiètent des liens entre talibans et Al-Qaïda. L'ennemi est au pouvoir à Kaboul, disent-ils. Les chefs du Pentagone s'expriment hier devant les élus du Sénat sur la débâcle en Afghanistan. Erreur de jugement, selon eux, de toute la chaîne du commandement et jusqu'au président lui-même. À New York, Loïc Loury.
Le 19 août dernier, à peine 4 jours après la prise de Kaboul par les talibans, Joe Biden assurait que personne au Pentagone ne lui avait conseillé de maintenir des troupes en Afghanistan hier. Et pour la toute première fois, le président a été désavoué par deux hauts gradés interrogés au Sénat. Ici, le général Kenneth McKenzie, le chef du commandement central. Je recommandais le maintien de 2500 hommes et plus tôt à l'automne 2020, j'avais aussi recommandé le maintien de 4500 soldats. C'était mon point de vue. Et je pensais aussi que le retrait de ces troupes conduirait à coup sûr à l'effondrement de l'armée afghane. Les militaires, pour autant, n'accablent pas l'administration actuelle, évoquant un échec stratégique global, notamment vis-à-vis d'une armée afghane dont le niveau de décrépitude avait été sous-évalué, explique Lloyd Austin, le ministre de la Défense. Le fait que l'armée afghane que nous et nos partenaires avions entraîné s'effondre, souvent sans même se défendre, nous a pris par surprise. Dire l'inverse serait malhonnête. Une conséquence à tout cela, reconnaît le général Mark Milley, le risque d'une reconstitution d'Al-Qaïda ou du groupe était islamique, dit-il, est une possibilité très réelle. New York, Loïc Loury, France Inter.
Sur l'île de la Palma, la lave du volcan en éruption a atteint l'océan cette nuit. Lave à 1000 degrés en contact avec de l'eau à 25. Nuages de fumée et potentiellement émanation de gaz toxiques. Un rayon d'exclusion de 2000 marins a été décrété.
Et à 7h08, un nouveau venu dans la flotte d'Air France, l'Airbus A220.
Il a atterri hier soir à Roissy-Charles de Gaulle, tout frais sorti de l'usine de Montréal au Canada. Air France en a commandé une soixantaine, car Philippe Lefebvre, c'est l'avion qui permet de faire de grosses économies.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet avion, pouvant transporter jusqu'à 148 passagers et effectuer des vols d'un peu plus de 6000 km, arrive au bon moment, celui où les compagnies aériennes cherchent des avions moins gros, plus faciles à remplir et surtout moins gourmands en carburant, explique Xavier Tittelmann, il est expert aéronautique chez Starburst Aerospace.
On gagne à peu près entre 20 et 25% de carburant, à la fois parce que évidemment on a des moteurs qui vont être plus efficaces, mais on a également un poids de l'avion qui va être plus faible, et plus on est léger, moins on va consommer. Et donc c'est le cumul de ce poids avantageux et de ses moteurs efficaces qui donne un avion qui est aujourd'hui le plus performant de sa catégorie.
Et pour cet avion, créé initialement par l'avionneur canadien Bombardier, puis repris en 2017 par Airbus, qui se vend entre 62 et 71 millions de dollars l'unité au prix catalogue, les carnets de commandes sont pleins, reconnaît Claude de Bocquen, c'est le responsable marketing avion monocouloir chez Airbus.
Alors aujourd'hui, on a un carnet de commandes de plus de 640 commandes pour la 220. On a livré 173 avions à 10 compagnies aériennes et donc nous avons continué. Donc ça, c'est intéressant de savoir que malgré la crise, c'est une des seules familles d'avions où on n'a pas eu de réduction de cadence de production.
Aujourd'hui, 5 avions sortent chaque mois des chaînes de Montréal et de Mobile aux États-Unis, mais Airbus espère pouvoir assembler 14 avions par mois d'ici 2025 avec 40% de pièces provenant de l'Union européenne.
5700 lits d'hospitalisation complètes ont été fermés en France en 2020. Dans le même temps, 1400 places d'hospitalisation partielle ont été ouvertes. La crise sanitaire a amplifié les fermetures. Étude du ministère de la Santé publié ce matin. Le ministre sera l'invité de France Inter à 8h20. Autre institution en crise, les universités. Un demi-million d'étudiants supplémentaires en 10 ans et recrutements qui ont baissé de moitié sur la même période selon les syndicats. Ils estiment que les 650 postes supplémentaires ne permettent pas de résorber le manque de moyens. Inspiratrice pour des milliers de jeunes dans le monde, la militante suédoise Greta Thunberg, personnage du documentaire de Nathan Grossman, I Am Greta, qui sort en salle aujourd'hui. L'histoire de l'engagement de cette jeune fille autiste, de ses doutes aussi, Célia Kiré.
C'est l'histoire d'une prise de conscience douloureuse, intime, le sentiment d'urgence la submerge. Le réalisateur choisit de montrer Greta, non pas comme une star, mais comme une jeune ado presque ordinaire, dans son univers, sa chambre, sa maison, le box de ses chevaux. Les scientifiques disent qu'il reste peu de temps pour agir, elle l'entend peut-être plus que les autres.
C'est là que j'ai commencé à déprimer. Et puis j'avais des angoisses. Je ne mangeais plus, je n'arrivais plus à parler. Ça a duré plusieurs années. Et puis doucement, mais sûrement, j'ai commencé à aller mieux.
Les grèves du vendredi deviennent un succès mondial. Greta a le sourire. Le réalisateur découvre en coulisses une ado heureuse, parfois riante. Elle est invitée partout, en Pologne pour le sommet de la COP, à l'ONU, à l'Élysée. Ses discours rentrent dans l'histoire. Mais les dorures des palais ne lui conviennent pas. Elle se sent mal. Cette responsabilité la dépasse. Ses doutes sont très présents.
Ils disent tous, c'est génial que tu sois là, ce que tu fais est incroyable, on te promet de faire quelque chose. Et puis ils ne font rien. Ils font semblant. Ça n'a pas l'air sincère.
Ce documentaire n'élude pas d'ailleurs les virulentes critiques reçues en pleine figure par cette jeune lycéenne. Enfant gâtée, bécasse, égoïste, elle voit les messages défiler sur les réseaux sociaux. Impassible en apparence, un personnage complexe qui continue de fasciner.
Allez, dans un autre genre, lui aussi fascine, le meilleur joueur de football du moment, Lionel Messi, a débloqué hier son compteur avec le PSG. Premier but inscrit en Ligue des Champions dans le match de poule remporté hier 2-0 contre Manchester City. Alexandre Vaux.
Il y a une dizaine de jours, on avait quitté Lionel Messi fâché d'être remplacé face à Lyon. Eh bien hier, le meilleur joueur du monde a pu hurler sa joie en courant les poings serrés. Sentiment partagé par son entraîneur Mauricio Pochettino.
Ce n'est vraiment pas mon genre de célébrer les buts. D'habitude, ça reste plutôt à l'intérieur. Mais celui-là, je peux vous dire que je l'ai célébré. Je l'ai vu Lionel Messi en marquer plein depuis le banc d'en face. Alors pour une fois que j'étais sur le bon banc, je pouvais célébrer.
Longtemps discret dans un match disputé, Lionel Messi a été magnifiquement servi par une talonnade de Kylian Mbappé. Un but important aussi pour le PSG et ses trois stars jusque-là très critiquées, souligne le consultant football de Radio France, Jérôme Alonso.
Dans ce match-là, à ce moment-là de la saison du PSG, c'est comme un symbole, je trouve. Il met un but qui va changer beaucoup de choses. Tous ces joueurs-là qui progressent match après match, ben, ça me fait dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire que PSG sera encore une fois un candidat sérieux au dernier carré, et voire même au titre final.
En attendant, le génie argentin lui marque un peu plus l'histoire de son sport. 121e but hier soir en Ligue des Champions pour une 17e saison sur la scène européenne.
L'autre buteur hier, c'était Gueye. Ce soir, Lille joue à Salzbourg.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes quand les victimes parlent aux aspirants prêtres.